Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Nicolas Voller et Damien Canivez.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV Île-de-France, Figaro Live et Figaro Radio. Ça va Damien ?
Ça va Nicolas, il y a du cheveu aujourd'hui sur ce plateau et je dis pas ça pour vous.
Il y a du cheveu, ça c'est moche, c'est noté. Donc il y a toujours la petite retenue sur votre salaire. Hein. Vous êtes au courant enfin de ça. On reçoit aujourd'hui sur ce plateau un confident au regard tendre et à la voix cassée qui recueille le témoignage d'anonymes et de célébrités dont la vie est, il faut bien le dire, souvent cabossée. Une voix cassée pour des vies cabossées. Bonjour Olivier Delacroix.
Bonjour.
On est ravis de vous avoir. Dans les yeux d'Olivier, c'est le titre du magazine que vous présentez tous les mercredis en deuxième partie de soirée sur France 2. Ouais. C'est le dernier, je crois, de votre salve actuelle. Vous allez à la rencontre de témoins qui ont grandi dans un milieu modeste, voire pauvre hein, souvent, et qui ont pu, qui sont parvenus à prendre l'ascenseur social, comme on l'appelle. Le titre de ce numéro est d'ailleurs le suivant. Peut-on échapper à son milieu ? Est-ce qu'à la fin de cette série de rencontres, la réponse est évidente ou alors c'est beaucoup plus nuancé que ça, Olivier ?
C'est plus nuancé, puisque on sait aujourd'hui qu'il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté.
Si, c'est énorme.
Oui.
100 ans presque.
Voilà. Quasiment. Et que de l'autre côté, 20% des enfants qui naissent dans des familles riches, en tout cas aisés, appartiendront à 20% de l'élite. D'accord. Donc ces chiffres-là parlent d'eux-mêmes. Mais c'est possible. C'est toujours ce que je dis à ma fille. Rien n'est impossible. Il faut, dans la vie, partir avec cette réalité hein, qui est la mienne. Je ne me suis jamais dit que quelque chose était impossible. Même si il faut rester dans la réalité et mettre à distance les choses, hein, et donc être bien ancré dans la réalité, pour savoir que bon, ça m'étonnerait si vous voulez qu'un jour je remplace Johnny Hallyday et que je passe Bercy à sa place.
Et pourquoi pas ?
Et pourquoi pas ? On ne sait jamais.
Et pourquoi pas ?
Mais donc, oui, c'est une réalité.
Rêver grand et s'accrocher à ça aussi.
Oui, hein. Mais c'est possible. C'est voilà. Les 4 témoins qui sont dans ce film ce soir le prouve, mais il raconte quelque chose aussi de notre société française. On peut faire un transfuge de classe, on peut faire ce voyage d'une classe à une autre, mais ça n'est pas pour autant que tout est beau.
Que le chemin est facile.
Voilà,
surtout,
ouais. Il y a des codes nouveaux à prendre. Est-on accepté par ce nouveau milieu qui sait d'où vous venez ? Le film de ce soir. Suscite beaucoup de questionnements quant à ce transfuge de classe.
On démarre sur NewsMedia, Damien, avec Aurélie Cassin, qui a décidé d'abandonner C'est à vous.
Absolument, la journaliste a décidé de quitter la table présentée par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5. L'ex-présentatrice de BFM TV avait rejoint le célèbre talk-show quotidien en septembre dernier. C'était il y a 4 mois seulement, mais
ses
depuis
janvier.
Ses repas
étaient froids, c'est pour ça,
c'est ça. Non ouais, elle mangeait toujours froid, et ça l'a contrariée, vraisemblablement. Voilà. Bon, en tout cas, ce qu'on a constaté, c'est que depuis janvier, elle avait disparu des écrans radars de ce talk-show. Alors, comment expliquer cette disparition si soudaine ? Eh bien, une source proche de l'émission confirme à nos confrères de Pure Média qu'Aurélie Cass aurait décidé de se concentrer sur son magazine Célébdo qui est diffusé chaque samedi sur France 5. Et cette même source indique qu'elle est en train de travailler sur d'autres projets avec la société de production Media One.
Qui est Célébdo, le C'est à vous du week-end.
Oui, fait, absolument.
Un petit peu ça. Pour ceux qui ne connaissent pas. Sachant que vous connaissez bien aussi le talk show. Vous avez travaillé avec Christophe de Chavannes, notamment comme enquêteur, pendant 10 ans, je crois,
ouais,
c'est ça ? Vous êtes resté en contact avec lui ?
Non. Ouais.
Non, plus.
Non, on n'est plus en contact. Non.
Quel regard vous portez sur sa nouvelle carrière, entre guillemets ? Il n'est plus animateur maintenant, il est chroniqueur.
Oui.
C'est autre chose. Pour vous, c'est toujours bien de le voir ou pas ?
Je ne peux pas vous dire, je ne le regarde pas. Donc,
Et vous ne le regardez plus ?
Non.
D'accord, vous êtes fâché un peu ?
Non, je n'ai pas d'avis, en fait. J'ai pas d'avis sur Christophe de Chavannes. Je suis désolé, vous savez que j'ai un avis sur beaucoup de choses.
Oui, c'est vrai, mais pas sur lui.
Non.
Bon, très bien. Il sort un livre en février, d'ailleurs, sa première autobiographie, qu'on découvrira, qui s'appelle Sans transition, qui sort dans une quinzaine de jours.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à la télévision, donc je ne peux pas vous parler de quelque chose que je ne connais pas.
Vous ne regardez pas tout.
Je tourne beaucoup le week-end avec Dans les yeux d'Olivier, donc souvent, le soir, le samedi soir, je ne regarde pas la télé, je suis fatigué.
Il y a un bouton qui s'appelle replay, je vous expliquerai comment ça marche après.
En plus de ça, je regarde beaucoup de foot.
Donc, le samedi soir. Vous êtes trahi. Sport en direct. Ouais. On continue ces news médias, Damien. On connaît la date du retour de Danse avec les stars.
Et oui, sortez vos agendas. TF1 a annoncé la date du retour de son célèbre concours de danse animé par Camille Combal. Et la nouvelle saison, qui est la 13e, démarrera le vendredi 16 février à 21h10. Alors pour le moment, nous ne connaissons que 4 personnalités qui participeront à cette émission. L'humoriste Inès Reg, l'animatrice Christina Cordula, qu'on a l'habitude de voir sur M6, la chanteuse canadienne Cœur de Pirate et l'acteur américain de Desperate Housewives qui s'appelle James Denton. Alors, je ne sais pas comment vous prononcez ça.
James Denton. Vous l'avez bien dit. Il jouait le mari de Terry Hatcher dans Desperate Housewives.
Je n'ai pas regardé Desperate Housewives. Désolé. Les contours de cette édition restent pour le moment un petit peu flous parce qu'on ne connaît pas la suite du casting et on ne connaît pas non plus les membres du jury qui vont ponctuer cette 13e saison. La seule chose dont on peut être quasiment certain, c'est que Chris Marquez participera à cette 13e saison. Puisque lui, il fait partie des rares qui sont restés installés dans ce fauteuil de juré depuis le début de cette aventure dans Danse avec les stars.
Il incarne vraiment, je trouve que c'est marrant parce que quand on parle de Danse avec les stars, on pense plus à Chris Marquez qu'au présentateur Camille Combal.
Ouais.
Mais parce que c'est
Chris incarne, parce qu'il est très charismatique. D'ailleurs, vous voyez, je me demande pourquoi TF1 ne lui fait pas faire plus de choses.
C'est vrai,
parce que c'est un garçon que je connais. Et qui est très malin, très humain, très intelligent. Et j'ai eu l'occasion donc de tourner dans les yeux d'Olivier avec lui. Dans la rue, c'est un enfer pour lui. Il est très populaire.
On l'arrête, photo, en permanence. Vous pourriez participer à Danse avec les stars, Olivier, ou pas, si demain on vous appelle. Ah ouais, sérieux. Ouais.
Oui.
Si France 2, France Télé vous dit pas de soucis, vas-y, vous pouvez y aller.
Si France Télé m'y autorise, bien évidemment. Sûr. Mais pourquoi pas?
Ouais.
Ça doit être une expérience marrante. J'ai fait l'émission d'Arthur.
Oui, Vendredi tout est permis. Voilà.
Non,
Star à nu.
Exact.
C'était une expérience très... Ouais, moi, j'aime bien les expériences où on partage des choses où avec d'autres personnes.
Massinger, ça vous plairait aussi ou pas?
Non. Parce que Massinger, vous êtes masqué beaucoup.
Bah oui.
Donc finalement, en plus, vous savez que... J'ai chanté pendant de nombreuses années, j'ai fait 7 albums, donc j'ai pas ce fantasme de chanter. Mais bien que je trouve que Masked Singer soit une excellente émission, en tout cas qui rencontre un public important. Mais non, Danse avec les stars, oui, pourquoi pas, ça serait...
Koh-Lanta. J'essaie de vous caser dans des émissions comme ça. Là, sur une île sans bouffe ou pas?
Je me suis souvent posé la question, comme beaucoup de gens qui regardent Koh-Lanta. C'est quand même un sacré truc. Je me suis souvent dit que j'en serais incapable.
Ouais.
Mais... finalement, si vous êtes coincé, vous êtes coincé.
Pas le choix.
Ils auraient dû faire un Koh-Lanta avec
des célébrités,
des personnalités. Ils l'ont fait déjà une fois.
Ils l'ont fait une fois, ça n'avait pas trop marché. Effectivement. Okay. Donc, préfère les anonymes, ça fonctionne mieux.
D'accord.
On termine, Damien, le chiffre du jour, 50 000.
Vous parliez de mon salaire, justement.
C'est pas votre salaire, ça.
On y arrive. Non, c'est en euros, évidemment. Mais l'amende que l'ARCOM a infligée à C8 à la suite d'une plainte de Joy Hallyday pour injure publique le 30 janvier dernier. Cyril Hanouna a organisé un débat dans Touche pas à mon poste au sujet de la fille de Johnny Hallyday, qui était âgée de 14 ans à cette époque. Et Kelly Vedovelli, l'une des chroniqueuses de l'émission, n'a pas mâché ses mots pour qualifier la tenue vestimentaire que Joy Hallyday a affichée dans l'une de ses vidéos TikTok. Je la cite, pour moi c'est le summum de la vulgarité parce que c'est la nouvelle génération, on a le droit d'être détepu, voilà ce qu'elle a indiqué. Oh. Alors dans son communiqué, le gendarme de l'audiovisuel a bien évidemment estimé que ses propos étaient particulièrement violents, grossiers et dépréciatifs.
Vous avez fait le compte des amendes de Cyril Hanouna il y a 2-3 ans.
Je crois que les dernières étaient à 4 millions.
Ouais, on n'est pas loin, autour des 5 millions d'euros là. Hein, c'est assez violent. Je vais vous demander de parler de ça, mais est-ce que ça peut vous arriver, comme on le voit souvent dans cette émission, vous-même, de sortir de votre calme, de péter un peu les plombs, de sortir de vos ronds? Ça vous est déjà arrivé, Olivier, ou vous arrivez quand même à garder votre calme?
Alors, je suis en quotidienne sur Europe 1, je fais 3 heures de direct tous les jours, donc je suis aussi mis à l'épreuve de ce type de possibilités. Moi, je crois que quand on est... animateur ou réalisateur, en tout cas qu'on incarne quelque chose, on a une responsabilité vis-à-vis des gens qui nous regardent, et il y a aussi des mômes qui nous regardent, donc voilà, il y a parfois des choses, je trouve, où certains dépassent les limites, ça les regarde. Non, je me mets en colère souvent sur la libre antenne d'Europe 1, parce que, bien évidemment, comme hier soir, en tout cas pas plus tard qu'hier soir, quand je m'élève contre le traitement qui est réservé à nos agriculteurs. Ah oui. Dans la deuxième salle, dans les yeux d'Olivier, qui sera...
Vous vous énervez pas contre votre interlocuteur, non, hein, ça, non, jamais. Mais c'est globalement des choses qui vous mettent en colère.
Oui, des choses. En avril, il y aura la deuxième salve dans les yeux d'Olivier. Il y a un excellent film sur le désespoir qui est dans le pré, hein, de nos agriculteurs. Ouais. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent me mettre en colère, et je ne me cache pas pour le dire. Et j'ai une direction à Europe 1 aussi qui me laisse libre de parole. Mais non, je pète pas les plombs, moi.
C'est à l'antenne, mais hors antenne, ça vous arrive ou pas ?
Non plus.
Non, vous êtes calme.
Vous savez, je suis quand même... J'ai 59 ans aujourd'hui, donc j'ai appris à plus descendre de ma moto quand on me provoque. Je suis beaucoup plus calme et beaucoup plus posé aujourd'hui.
Vous avez 59 ans ?
Ouais.
Vous n'êtes pas du tout, Olivier.
Je sais.
Je vous le dis.
Je sais.
Félicitations.
C'est marrant parce que c'est quelque chose que je pose souvent comme question et que je sais. On veut souvent que je révèle mon secret, mais... Ouais.
Vous faites 25, 26 ans max, quoi.
Merci, Damien.
Bah voilà, absolument. Et Damien sera majeur la semaine prochaine, hein, on le rappelle.
Oui, oui.
Vous se recommande ce soir, Olivier, d'un nouveau numéro de votre magazine Dans les yeux d'Olivier. Ce sera 22h55, hein, sur France 2. On l'a dit, vous tendez aujourd'hui le micro ce soir à trois hommes et une femme qui sont parvenus à s'élever socialement, comme on le dit, qu'ils ont grandi dans un milieu difficile, voire précaire au départ. Pourquoi cet intérêt pour l'ascenseur social dans notre pays, dont on sait qu'il fonctionne pas forcément extrêmement bien, contrairement à d'autres pays.
Mais d'abord, je trouvais l'angle assez intéressant, ouais. Parce que finalement, j'ai rarement vu des choses traitées de ce transfuge de classe. Mmh. Donc, ça me paraissait très important de... Vous savez, depuis le début, je revendique de faire des films militants. Je veux, depuis le début, avec Katia Maxime et Fabrice Bonanno, qui est mon associé pour C'est comme ça production, je veux vraiment, depuis le début, faire avancer le bouchon et transmettre à celles et ceux qui regardent un message. Et souvent, au bout du tunnel, dans les yeux d'Olivier, ceux qui vous disent « c'est trop triste, c'est angoissant dans les yeux d'Olivier », c'est qu'ils ne le regardent pas. Mais... Parce que, en fait, tous les témoignages que j'ai, déjà, sont longs. C'est la seule émission qui traite aussi longuement et qui longueur, va plus en profondeur. Et à la fin, il y a toujours la lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire des gens qui expliquent comment ils y sont arrivés, comment ils ont mis en place des stratégies pour y arriver. Donc, ça me semblait important de dire « on peut y arriver aussi en France, même si on est dans un pays... »
qui n'est pas complètement basé sur la méritocratie.
Où il y a beaucoup de services, de petits services entre amis, où on sait qu'il y a un entre-soi et qui, bien évidemment, marche dans les milieux appropriés. C'est dur.
On l'a vu avec la ministre Amélie Oudéa-Castéra récemment, et son fils qui était dans une école et qui a bénéficié.
Ça, c'est une autre histoire.
Absolument.
On a une ministre qui a essayé de...
Mais c'est ce milieu-là, bien sûr.
Ouais. Oui,
mais ça rejoint ce que vous dites, un milieu qui se coopte et qui cède, en tout cas.
Oui, de toute façon, pourquoi finalement reprocher à des gens, même s'ils sont riches, d'aider leurs enfants. Enfin, vous voyez, c'est... je trouve que le débat, il n'est pas là. Le débat, il est ne cache pas qui tu es, assume qui tu es. Et donc, tu es ministre, tu gagnes beaucoup d'argent, tu viens d'un milieu extrêmement aisé, et tu mets tes enfants dans le privé. Je pense que la faute de casting, c'est peut-être de ne pas avoir observé avant... cette situation qui pouvait prêter à confusion pour une ministre de l'Éducation. Mais je pense que le problème, il n'est pas là. C'est que le problème, c'est un problème d'erreur de communication qui fait que si vous ne racontez pas la vérité, Mais donc voilà, ce milieu, moi ça ne me gêne pas qu'un parent qui soit riche aide son enfant. C'est normal. L'important, c'est de montrer ce soir dans ce film que dans ce pays, on peut y arriver si on travaille, si on y croit, si on se dit... que c'est possible.
D'ailleurs, vous, Olivier Delacroix, vous venez d'un milieu qui n'est pas forcément privilégié non plus.
Votre
papa était peintre en bâtiment avant de monter son entreprise. Votre maman, elle était mère au foyer.
Oui.
Est-ce que vous vous êtes particulièrement identifié au cas que vous avez traité dans cette émission ?
Écoutez, très sincèrement, quand j'ai tourné ce film, j'ai réalisé que moi aussi, j'avais opéré ce voyage, en fait. Et c'était... Voilà, je me suis posé plein de questions et ça m'a beaucoup intéressé d'échanger avec ces transfuges de classe. Voilà, on a un juge d'instruction, on a une agrégée en philosophie, on a un ingénieur en informatique, Roman, qui lui a vraiment connu vraiment la pauvreté. Ouais. Et puis Jérémy Ferrari aussi, qui est dans ce film.
Absolument, on en parlait, ouais. Comment vous l'avez convaincu, Jérémy Ferrari, de venir parler dans l'émission?
On a fait Fort Boyard ensemble.
Ah, bah voilà, vous êtes rencontrés là, alors.
Donc, on était copains. Après Fort Boyard, on a régulièrement déjeuné ensemble. C'est un garçon que je trouve très brillant. Il est cabossé, il est...
Il a des problèmes avec l'alcool, des choses qu'il a eues absolument. Ouais, et ses parents étaient quoi, des petits commerçants, c'est ça?
Oui, voilà, ils avaient de l'épicerie du quartier. Mmh. Mais je trouve que c'est vraiment un écorché vif. Et je ne l'avais jamais vu en spectacle. Et j'ai pu donc y assister. Et vraiment, voilà, je l'ai trouvé très, très drôle. Très... C'est un gars qui y va, hein.
Ah oui,
à une époque où, si vous voulez, on peut plus dire certains mots.
Ouais.
Sur scène, lui, ça déménage.
Ah oui, vous regardez les duos impossibles de Jérémy Ferrari, généralement, vous pouvez effectivement tomber à la renverse, c'est vrai. Alors, Jérémy Ferrari, il le dit dans ce documentaire, il gagne très bien sa vie. En une soirée, il amasse autant d'argent que son papa en 4 mois, c'est ce qu'il dit devant vous, raison pour laquelle il se sentait à un moment donné redevable et qu'il a acheté même une maison à ses parents. Quel rapport, vous avez avec l'argent? Est-ce que, vous l'avez dit, vous êtes identifié à ce genre de profil, vous êtes posé des questions. Est-ce que vous aussi, à un moment donné, vous vous êtes dit, tiens, je me sens mal à l'aise par rapport à ma famille avec tout l'argent que je gagne?
Non.
Jamais?
Non. Je vais vous dire, je me dis souvent, et pas plus tard qu'hier soir, on en parlait avec ma femme, et je lui disais combien... c'était par rapport à... Vous voyez, je regardais l'envoyé spécial de Kylian Mbappé.
Oui. Ouais.
Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Ouais. Moi, ça ne me procure aucune frustration. Alors que je vois le réflexe qu'ont certaines personnes...
ni aucune envie.
Aujourd'hui, je ne suis pas envieux, et c'est facile pour moi de le dire, puisque je gagne ma vie, je peux aujourd'hui voyager comme je veux. Je peux m'acheter, comme je ne suis pas quelqu'un qui fantasme sur les marques, sur les montres, sur les bagnoles, j'ai cette chance.
Vous vous souciez plus des fins de mois, en fait. Ben, c'est ça l'avantage, c'est au moins ça.
C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas frustré ne pas pouvoir me payer quelque chose, en fait. Mmh. Mais comme je n'ai pas des goûts... voilà. Mais bon, je peux voyager, ça c'est important. Et donc j'ai la chance de ne pas être frustré, de ne pas me refuser quoi que ce soit. Et je me le dis souvent, parce que j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui gagnent 1 500 euros, 2 000 euros, qui sont par exemple protection judiciaire de la jeunesse, ou qui sont peintres en bâtiment aussi, à leur compte, hein. Mais je vois combien c'est difficile de gagner de l'argent aujourd'hui. Donc je ne vais surtout pas me plaindre.
De ce que vous gagnez,
privilégié.
Par contre, votre Lamborghini garé en double file devant le Figaro, il faudra aller la récupérer. Il faudra
que vous poussiez votre Porsche avant.
C'était une blague. Justement,
parce que je suis en moto.
Les prochaines émissions, vous avez déjà les thèmes, Olivier, parce que il y a une salle qui se termine ce soir. Les prochaines, vous savez déjà un peu ce que vous allez faire?
Oui, il y a un film sur l'agriculture, donc, comme je vous l'ai dit, avec Guillaume Canet, qui m'a fait vraiment le grand honneur de venir dans les yeux d'Olivier. Il y a un film sur les blessures du passé, vous savez, la mémoire transgénérationnelle, tout ce qu'on peut prendre avec nous, alors que ce sont une ou deux générations que les choses se sont passées avant, et on voit comment
on garde toujours, c'est
voilà,
ça.
Voilà, comment nous, humains, on peut être impacté par le passé de nos familles. Et puis il y a un film sur la mémoire, voilà. Donc voilà, ce sera sans doute en avril.
Les agriculteurs, justement, ils sont dans l'actualité, évidemment, avec les blocages, les aides qu'ils demandent. Cet appel à aide, et notamment cette agricultrice et sa fille de 12 ans qui ont perdu la vie hier, et là sur un barrage routier, j'imagine. Comment vous avez réagi à cette nouvelle? Je sais que vous vous intéressez aussi beaucoup
vous savez,
aux agriculteurs.
Oui, vous savez, je crois que beaucoup de Français ne connaissent pas la réalité. La réelle vie de nos agriculteurs. On parle de gens qui travaillent 12, 14, voire 16 heures par jour. On parle de gens qui
pour
ne
nous
se
nourrir,
sortent,
en plus.
Voilà. Ouais. On parle de personnes qui ne se sortent pas de salaire. Ouais. On parle de gens qui ne partent jamais en vacances. Ouais. Ça représente la majorité de nos agriculteurs. Je sais pas, je pense que celles et ceux qui nous regardent là, partent en vacances, en tout cas travaillent 8 heures par jour quand ils ont la chance d'avoir du travail. On maltraite nos agriculteurs. Et aujourd'hui, il y a des gens dans la rue qui n'ont plus d'espoir. Ils n'ont plus de... ils ne peuvent même plus se projeter.
Se projeter.
Donc attention.
Sans rêve, sans
voilà,
rêve.
Voilà. Oui. Attention quand on a affaire à des gens qui n'ont plus rien et qui n'ont plus d'espoir. Attention. Parce que
attention moi, à leur désespoir.
Je les ai rencontrés ouais. Et oui, ils sont très en colère. Et je trouve qu'aujourd'hui, en 2024, la condition de nos agriculteurs n'est pas digne d'un pays comme la France. Et les politiques qui se sont succédées écoutent. Ils écoutent beaucoup, hein.
Ouais.
Il se passe pas grand-chose.
Mais il se passe pas.
Et vous pensez que cette révolte, elle peut aller extrêmement loin quand vous dites attention.
Encore une fois, je vous le dis, j'ai rencontré moi des jeunes, des plus vieux, qui sont dans le désespoir. Donc attention quand des gens n'ont plus rien et ne risquent plus rien à aller loin.
N'ont plus rien à perdre en fait.
N'ont plus rien à perdre. Ce sont des, en plus des gens, vous savez, souvent extrêmement purs.
Oui.
Avec des idéaux assez restreints, mais parce qu'ils ont choisi la terre, et que, quand je dis restreint, c'est, voilà, ça, c'est un environnement restreint, ils ne partent pas, ils n'ont pas les moyens.
Vous abordez souvent des sujets forts, évidemment, on l'a dit, dans vos émissions, mais
je suis petit-fils agriculteur aussi, donc
absolument.
J'ai connu un grand-père qui voyait le boulot qu'il faisait, mais on mangeait à la maison.
Dans les sujets dont vous parlez, qui sont des sujets assez forts, hein, et on l'a dit, et concernant, vous le faites toujours avec empathie, avec bienveillance, à la manière un peu d'une Faustine Bollard, hein, dans un genre différent. Est-ce que vous avez l'impression d'être totalement, parfois, à contre-courant dans ce milieu des médias, de l'état actuel de la société qui fonctionne par clash, par insultes, par des débats houleux, la plupart du temps, par des clivages, où il faut prendre parti, droite, gauche. Vous avez l'impression d'être un peu à part. Faustine Bollard nous disait ça de temps en temps.
Elle vous disait ça d'elle ?
Qu'elle se sentait à part de tout ce qui se passait.
Faustine fait très bien son boulot. Elle rencontre du succès l'après-midi. Et je comprends en plus qu'elle s'étonne souvent de la violence de cette société et des dérives. Et surtout, je dirais, de l'émergence de visages... où il n'y a pas l'intellect qui suit toujours avec.
Ouais.
Et on voit de plus en plus, de gens qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, en plus. On a de plus en plus affaire à des petites chapelles extrémistes que l'on entend beaucoup plus que la majorité des gens.
Sur des gens en particulier
mais
ou
sur
pas
des, sur des thèmes, des thématiques de société très, en ce moment, là. Vous les connaissez, c'est Le Figaro en parle, vous en parlez.
Vous parlez de quoi? De CNews, par exemple?
Non, pas du tout. Je parle de chapelles, de petites chapelles féministes. Alors que je discute avec des féministes régulièrement. Je discute régulièrement avec des trans, avec des personnes gays, qui n'aiment pas voir par moment ces chapelles revendiquer et chercher le clash absolument et la violence. Vous voyez,
minorité extrémiste et voyante, oui.
Exactement. C'est ce que j'avais dit d'ailleurs à votre collaborateur Damien, je crois.
Damien, c'est moi.
Damien, vous savez, j'avais fait l'émission pendant 2 heures là en direct.
Figaro la nuit.
Voilà. Et je lui avais dit, il m'avait posé la question.
Gautier, ouais.
Vous n'aimez pas les féministes, Olivier Lacroix. Et je lui avais dit. Alors j'avais oublié de lui préciser que je n'aimais pas ces chapelles.
Ces chapelles-là, oui.
Mais les féministes, enfin, je participe à ce combat depuis maintenant presque 20 ans. Bien évidemment, méfions-nous des clashs, méfions-nous des putaclics. Oui, notre profession aussi de journaliste a changé, vous le noterez. Il y a toujours cette recherche du mot qui dépasse, de l'expression qui dépasse, pour aller chercher le truc scandaleux. Je pense qu'on vit une drôle d'époque et qu'on reviendra à quelque chose de plus vertueux. Souvent, l'histoire nous a montré qu'il fallait passer par... des choses
par
un
ça,
peu extrêmes
pour revenir, revenir au, calme.
Au calme.
Je vous entende. On passe à notre dernière rubrique au suivant. Nous recevons sur ce plateau Laurent Mestré, l'ancien grand vainqueur de Koh-Lanta et animateur des Apprentis Aventuriers sur W9. Il avait une question à vous poser, Olivier. Je vous propose de l'écouter et d'y répondre juste après.
Je sais que tu as l'âme d'un aventurier, mais est-ce que toi-même, tu as déjà fait une aventure un peu hors du commun, tu vois? Je serais curieux de savoir ça. Est-ce que, Olivier, tu as déjà fait une aventure un peu folle, ou si tu n'en as jamais fait, est-ce que tu pourras en faire une?
Un de ces quatre dans les apprentis aventuriers.
Les apprentis. Alors, Koh-Lanta, vous avez déjà répondu, mais ouais. Vous avez déjà fait une aventure folle comme ça, un truc.
Une aventure folle, ça dépend. Si là, on parle d'un gars qui tient 3h30 sur un piqué, qui fait des trucs incroyables, qui est un athlète.
Ouais, ouais.
Non, comme je vous l'ai dit, je voyage beaucoup et je voyage souvent avec ma femme, ma fille. On loue un van, on dort un peu partout, au coin des plages.
C'est voilà, ça l'aventure.
Oui, moi, aujourd'hui, c'est une aventure un peu, on va dire, une aventure de bobo.
C'est bien, c'est très agréable aussi. À votre place, on recevra Ilyes Djabel pour le film numéro 10 sur Prime Vidéo.
Oui.
Si vous avez une question à lui poser, Olivier, c'est tout de suite. Ilyes vous écoute.
Pas trop dur, l'élimination de l'Algérie à la CAN. J'aimerais bien avoir votre avis.
On se désolidarise de cette question.
J'imagine. Effectivement, ce matin, c'est un peu difficile pour nos amis algériens. Merci beaucoup, Olivier
merci
de Lacroix,
Olivier.
D'être passé nous voir.
À vous.
Les yeux d'Olivier, dans les yeux d'Olivier, ce sera à 22h55 sur France 2, sur l'ascenseur social. Ne manquez pas évidemment cette émission. Je vous dis merci. Je vous souhaite une bonne journée. Merci encore de votre fidélité.